Ici, pas de pitié, pas de casque, même pas de jackstrap. Ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les mangeux de puck.
Fratello, Marco D'Amico, comment ça va?
Ça va très bien, vous autres?
Ça va bien, merci. Moi, je suis pas sur YouTube. C'est quoi ton T-shirt, là? On peut-tu le savoir?
Ben, je pense que t'es la seule personne qui le sait pas d'abord, non? J'ai juste un T-shirt à la Marvel, mais à l'ancienne Marvel, avant que ça devienne un univers, parce que c'est juste tous les personnages comme bande dessinée.
Compliqué comme jeu, ça, finalement.
Je m'as envoyé une photo tantôt, là, tu vois.
Non, il est magnifique, le chandail.
Je me suis logué sur le YouTube. C'est superbe, ça, comme chandail. Il y en a
un
autre?
C'est un gars de T-shirt. Demain, je vous le dis. Regardez bien ça demain.
C'est
vrai qu'il n'est pas là demain. Fait qu'on va regarder ça.
C'est vrai que je suis pas là demain. Je suis pas là lundi non plus parce que c'est l'action de grâce. Fait que j'ai utilisé mon meilleur.
Hey, nous autres non plus, on n'est pas là lundi.
Non.
Week-end de 3 jours.
Mais le club du matin,
c'est
là.
Ça.
C'est vrai, manquez pas le club du matin lundi parce qu'il va falloir revenir sur toute l'actualité qui va se passer, notamment avec le Canadien, baseball, toute la Ligue nationale, tout le reste, la NFL aussi. Manquez pas ça, on va écouter les gars. Mais tu me diras où est-ce que tu as acheté ce chandail-là? Je le trouve absolument magnifique, Marco.
C'est ma femme.
Ah, qui l'a fait ou qui l'a acheté?
Qui l'a acheté. Si elle l'a fait, on est dans mauvaise business.
OK, Marco, je te donne 2 mots. Et là, je sais que tu avais hâte de nous en parler. Noah Dobson. Il y en a plusieurs qui critiquent, et je ne sais pas si tu as entendu la conversation musclée que j'ai eue avec mon ami Ben, que j'adore ici, dans laquelle j'ai soulevé l'hypothèse, même l'opinion, dans laquelle il est encore gêné, peut-être par son haine, et que c'est ce qui expliquerait peut-être, tu sais, son fameux repli ou de la lecture ou tout ça. Explique-nous ça, là. Noah Dobson, selon toi, est-ce qu'il a joué un bon match d'hockey?
Il n'y a pas une statistique que vous pouvez sortir qui indiquerait le contraire. C'est... Est-ce qu'il est capable de mieux? Oui, absolument. Puis je pense que c'est de là où que le Canadien a voulu payer ce défenseur-là 9,5 millions de dollars. Mais encore une fois, je pense que tout le monde qui... Déjà patiné avec une blessure, ont déjà vu une blessure à l'aine devant eux. Tu peux voir, les élans sont pas là. Il fait pas le mouvement complet de son élan pour se donner le plus de poussée possible. Et ça, d'habitude, c'est à cause qu'il y a quelque chose qui bloque dans le mouvement. Donc, déjà de base, un défenseur qui rentre dans un nouveau système avec le Canadien de Montréal, nouvelle chimie, nouvelle coéquipier. Puis j'ai quand même trouvé que si tu regardes la combinaison Matheson et Dobson, contre toute attente, qu'est-ce qu'on a vu durant le calendrier préparatoire, c'était la meilleure paire défensive sur glace des deux côtés de la glace. Et je pense que ça en dit beaucoup parce que Mike Matheson, je pense qu'il a très bien simplifié son jeu hier. Et c'est en ayant un gars comme Noah Dobson qui, lui, s'occupait de la relance. Et donc, Mike Matheson était moins apte à lui devoir faire les relances et les sorties de zone de lui-même, donc moins d'erreurs dans ce contexte-ci aussi. Et c'est pour laquelle cette paire-là n'a pas fait face à un but contre à 5 contre 5 durant la partie. Et donc, pour moi, je peux comprendre la critique sur le back-check et je comprends le collègue Gilbert Delhomme ce matin sur ça. Écoute, pour moi aussi, j'ai été un peu surpris, mais compte tenu des informations que j'ai reçues après, c'est un peu comprenant.
Mais tu parles des informations, tu parles de ce fameux back-check. Là. Là, on va analyser, ouais, parlons-en. Là, tu dis, quand on regarde son coup de patin, on voit qu'il ne donne pas son élan complet. Et tantôt, l'altercation qu'on avait, Ben et moi, encore une fois très amical, disait, Greg, tu dis une énormité. S'il est blessé, s'il est gêné, il ne devrait pas jouer. À quoi je dis, c'est rare qu'on voit des athlètes qui sont à 100% tout au long. Mm-hmm. Là, est-ce qu'on aurait dû peut-être pas le faire jouer? C'est une question que je te pose. Pour moi, la réponse, c'est non. Parce qu'il nous a donné des très, très grosses minutes. Il était très bon durant le match. Mais là, ça, c'est une séquence qui l'a pris justement dans cette gêne-là, si on veut.
À 80%, disons, de ses habiletés, c'était quand même statistiquement le meilleur défenseur sur glace. Donc, sur la glace pour cette game-là, excuse. Donc, pour moi, j'ai pas tant peur que ça parce que, pour moi, il vient combler beaucoup des besoins que le Canadien avait l'année passée. Numéro un, il se faisait pogner dans leur zone assez souvent. Il y a pas, je pense qu'il y a eu juste une ou deux présences où ce que les trios offensifs des Maple Leafs ont eu du temps de jeu, disons, adéquat dans la zone défensive alors que Matheson et Dobson étaient sur la glace. Sinon, c'était récupération de rondelles rapides, sortie de zone rapide, contre-attaque immédiate. C'était assez direct. Et quand il y avait besoin de se défendre, ces deux-là, bon bâton, bonne vision du jeu, ne se compromettait pas trop, pas trop agressif, attendait le jeu, attaquait l'attaquant si nécessaire dans une bataille à un contre un, n'a pas perdu de bataille à aucun un contre un. Donc, encore une fois, pour moi, c'est de valeur parce qu'on se souvient sur un jeu, tandis que les 59 autres minutes étaient quasi parfaites. Et donc, pour moi, compte tenu de sa blessure aussi, je pense que comme entrée de jeu, ça, c'est très prometteur pour qu'est-ce qui va venir pour les prochaines années.
Voilà qui a rassuré FX un peu. Là. Il m'en a parlé ce matin. Là, lui qui dit à moi, là, je suis patient, je lui donne 15 matchs pour s'acclimater.
Ouais,
ce qu'on a vu
d'accord.
Hier a été très encourageant.
Mais on en a d'ailleurs parlé la semaine passée avec FX. Puis il y a une des raisons pourquoi j'ai dit 15 matchs, parce que je me rappelle toujours, ça fait à peu près une quinzaine d'années maintenant, je pense, mais Scott Gomez m'avait dit, avait dit dans le temps, quand que lui il s'est blessé à l'aine, que ça l'a pris à peu près 3 semaines pour vraiment s'y remettre avec son élan. Ça, c'est un joueur qui jouait primordialement de vitesse. Donc, pour lui, manquer un step dans son élan à cause que son aine n'était pas 100%, ça t'a fait penser à la donne. Et c'était un peu la même situation que j'ai vu avec Dobson, où ce que même hier, tu as vu ces 2 ou 3 premières enjambées étaient correctes, mais tu voyais pas la poussée que tu es habitué de voir d'un Noah Dobson. Puis, donc, pour moi, ça l'indique que c'est pas nécessairement à 100%, mais pas à 100% au point où que ça pourrait nuire à long terme.
Ou s'aggraver. Tu peux être sur la pente, pour revenir de cette blessure-là aussi.
C'est ça. Et donc, tu ne veux pas nécessairement aggraver cette blessure-là. C'est pour ça que tu as vu Patrick Laine, qui lui a donné son meilleur sur ce jeu-là, à essayer de se donner, spécialement après une longue présence en fin de troisième, alors que le banc a été rétréci un peu. C'est normal. Pour moi, c'est normal. La partie était jouée à ce moment-là, anyway. Donc, je comprends très bien la réaction des partisans, mais si on englobe tout, c'est très, 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 très loin d'être le joueur responsable pour la défaite du Canadien hier.
Là, tu as réussi à nous plugger Scott Gomez dans la chronique. Là, je sais pas si c'était un jeu ou un défi que tu avais avec FX ou Ben, mais celle-là...
Non, non, c'est juste... C'est une des choses qui a sorti de son temps avec Montréal, c'est quand il s'est blessé à l'aine. Puis je me souviens toujours, c'est une des premières personnes avec qui j'ai parlé quand j'étais jeune et autour de l'équipe. Et il avait confirmé, oui, bel et bien, une blessure à l'aine. Je peux pas répéter comment il l'a décrit, mais c'était pas gentil d'avoir une blessure à l'aine quand t'es un fin patineur. Et il a dit, écoute, se remettre de ça, ça prend deux semaines, trois semaines pour vraiment retrouver ton élan au complet, spécialement quand tu joues sur une base régulière.
Selon toi, Marco, là, est-il incommodé? A-t-il encore une fin de blessure à soigner, selon toi? Ou il est à 100%, selon toi? Selon ce que j'entends depuis tout à l'heure, de la part de Greg...
Mais c'est ce qu'il a dit.
Et de la part de toi, c'est ça. Non, je repose la question.
Okay.
Selon toi...
Moi, je sais. Écoute, je suis pas le médecin du Canadien.
Non, moi non plus.
Mais si je me base sur qu'est-ce que je connais, puis si on sait qu'il était blessé à l'aine, je me dis, c'est pas nécessairement quelque chose qui pourrait être vu comme ne pas être à 100%, mais sa mobilité n'est peut-être pas à 100%.
OK. Mais, tu sais, ce sont des joueurs qui coûtent cher. Ce sont des investissements majeurs pour les équipes. Donc, pour les entreprises, c'est de la business. Moi, je veux dire, je m'explique pas. Tu sais, je vais vous donner.
À l'équipe médicale
je le sais bien, mais je vais vous donner l'exemple de Davis Alexander avec les Alouettes, là, qui est revenu trop rapidement au jeu, là, puis qu'on a perdu à peu près pendant, on l'a perdu pendant 2 mois après. Là.
Ouais.
Alors, tu sais, je me demande juste, moi, à quel point il faut que tu fasses absolument jouer ce gars-là s'il n'est pas tout à fait remis à 100% de sa blessure? C'est la seule question que je me pose.
Ben, je te pose une question.
Parce que moi, je comprends le gars qui est blessé, qui là, il fait moins son repli parce qu'il ne veut pas aggraver sa blessure, mais que fait-il sur la glace s'il ne veut pas aggraver sa blessure? Tu comprends?
Moi,
non, mais je te pose une question. Je te pose une question. D'après toi, est-ce que Davis Alexander est à 100%? Il a joué le dernier match. Il a gagné. Ils ont gagné. Il a très bien fait. Est-ce qu'il est à 100%?
Selon moi, non.
Bon, c'est-tu correct qu'il joue?
Non, mais je veux dire, c'est pas ça. Dans ce sens que moi, ce que j'entends, c'est que il est incommodé. Ça se sent, ça se voit. Malgré ce que Marco dit, là, puis le fait que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur sur la glace en défensive chez le Canadien hier. Il reste que moi, je prendrais pas ce risque-là.
OK, donc ton point vient du risque de ne pas aggraver la blessure de Noah Dobson.
Je pense que le Canadien ont fait leur meilleur pour s'assurer qu'il joue le moins de temps possible pour lui permettre de guérir ça. Mais personnellement, je crois que si tu regardes la façon qu'il joue, c'est pas nécessairement que ça l'incommode au point où ce qu'il est pas capable de jouer, mais c'est très visible quand tu dois gagner une bataille de vitesse.
Okay.
Et je pense que c'est là où est-ce que tu vois le problème.
Parfait.
Donc, 99% des chances, pas de problème. Mais s'il avait vraiment à se donner à fond dans ce repris-là, c'est là où est-ce que tu pourrais causer une aggravation de blessure. Et c'est peut-être là la différence, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on le jumelle avec un Mike Matheson qui est hyper mobile, mais dans une situation à 6 contre 4 où ce que l'autre défenseur, c'était Lane Hudson, et que la personne qui faisait le repli était Patrick Laine, ben tout le monde paraît mal sur la séquence.
OK. Merci.
Très intéressant. Écoute, on va se lancer dans une longue analyse des jeunes recrues des Red Wings de Détroit. Alors, si tu veux bien, Marco, on va faire une pause tout de suite et on va aussi s'en aller jaser de l'autre côté des signatures d'agents libres parce que là, ça signe puis ça coûte cher un peu partout. Carl Connor hier, Jack Eichel, on rappelle, 12 millions sur 8 ans et 13,5 millions pour Jack Eichel, donc deux gros contrats. Il y en a d'autres qui vont s'en venir. On sait qu'on parle de Lane Hudson qui fait partie des agents libres avec restrictions. Mais qu'en est-il? Est-ce qu'on pourrait en voir d'autres? Des agents libres sans restriction signés dans les prochains jours, les prochaines semaines. On revient avec Marco D'Amico dans 2 minutes.
Ici, ça joue rough. Tout pour avoir le dernier mot. Voici les Mangeux de Puck.
Encore une fois avec Marco D'Amico. Marco, ce soir, les Canadiens affrontent les Red Wings à Détroit et le fameux Iser Plan, ça, FX voulait t'en parler. On a comme vu un changement en ce début de saison, la nomination de plusieurs jeunes, des premiers choix repêchage notamment, et aussi, belle histoire dont Ben nous a parlé tantôt, l'allié Finney.
Finney.
Choix de 7e tour qui finalement a fait va jouer sur le premier trio ce soir, notamment. Parle-nous peut-être de certains jeunes joueurs là, qu'on connaît peut-être pas puis qui pourraient nous épater ou être à surveiller ce soir. Puis je te lance un premier nom, là, Axel Sandin-Pelikka.
Ouais, c'est certain que Axel Sandin-Pelikka, le fameux ASP, va être quelqu'un à surveiller parce que n'importe quoi, quand tu repêches un joueur tôt, tu te mets à regarder derrière ce joueur-là pour voir les autres joueurs qui ont été repêchés. Axel Sandin-Pelikka est l'autre défenseur droitier à sortir de la QV 2023, la même QV que David Reinbacher. Un joueur à caractère offensif s'est fait vraiment comparer à un gars comme Erik Karlsson durant son année de repêchage. Et elle a continué de bien se développer en Suède. Et cette fois-ci, c'est taillé une place avec le grand club. C'est certain qu'ils ont aussi liquidé et perdu certains défenseurs durant la saison morte l'année passée. Donc, c'est pour ça que tu peux voir un jeune comme Sandin-Pelikka se tailler une place. Et des jeunes défenseurs droitiers, il n'y en a pas beaucoup dans la Ligue. Ils en avaient besoin à Détroit. Donc, c'est un joueur qui peut jouer sur un avantage numérique. On verra pour l'instant, probablement sur la deuxième vague. Mais de le jouer avec Simon Edvinsson, qui lui aussi est un premier choix, dans la QV 2021, mais lui plutôt défensif avec certaines habiletés to-way, un peu comme David Reinbacher en général. Ces deux joueurs-là risquent d'être la future première paire pour des années à venir si les choses continuent à avancer dans leur développement. Sinon, ça va être une deuxième paire de luxe, mais ils font le début ensemble ce soir. Très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire en défensive. Mais ouais. Je crois que la grande majorité des jeunes joueurs que vous voulez discuter sont en attaque.
Oui, c'est parce que 6 des 8 choix de premier tour depuis l'arrivée de Steve Yzerman, c'est important de le mentionner, là, en 2019, commence le premier match de la saison cette année. Puis on l'a vu souvent au cours des dernières années, Steve Yzerman, il est très patient avec ses jeunes joueurs repêchés. Il y en a plusieurs qui retournent en Europe, il y en a plusieurs qui jouent dans la Ligue américaine, Marco. Il y a une tendance aussi à les sélectionner en Europe, on l'a vu beaucoup au courant des dernières années. Et les Red Wings de Détroit, il faut le mentionner, là, depuis l'arrivée de Steve Yzerman, oui, il a greffé des vétérans là, au fil des années, des vétérans à la place de jeunes. Il aimait mieux avoir des vétérans au sein de son alignement, mais là, on voit vraiment une tendance où il y a beaucoup plus de jeunes au sein de l'équipe. Quand tu regardes la liste de gars en dessous de 25 ans qui vont jouer le premier match de la saison régulière, Moritz Seider à 24 ans, il y a également Johansson, un défenseur à 24, Raymond à 23, Edvinson 22, Kasper qui a été très bon l'an dernier, centre du deuxième trio pour amorcer la saison à 21 ans, Sandin Pelika t'en parlait 20 ans, Brancett Nigar aussi 20 ans. Alors tu vois, c'est une jeune équipe celle des Red Wings de Détroit, mais au courant des dernières années, on a laissé la place à un peu plus de vétérans, on allait chercher des vétérans pour les greffer dans la formation, mais là cette année, il y a quand même une tendance de voir plus de jeunes dans l'équipe.
Ah, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de critiques envers Steve Yzerman par rapport à ça, parce que d'année en année, tu es en train de repêcher entre 7, 8 et exact. 14 pendant 5 à 6 années de suite. C'est vraiment, tu es dans le no man's land de la Ligue nationale, donc tu te dois de commencer à avoir, disons, un peu plus de résultats dans ce contexte-ci. Et je pense que c'est exactement qu'est-ce qu'on commence à voir maintenant, c'est que ces jeunes qui se sont fait donner du temps pour se développer, maintenant sont capables de se greffer à l'alignement. On l'a vu l'année passée avec Marco Kasper, tu l'as dit. Ouais. Très belle deuxième moitié de saison, un des recrues les plus dominants de la deuxième moitié de la saison passée. Mais tu regardes Brancek Nygaard, je l'aime beaucoup. Un choix en 2024, mais un joueur qui était très pro-ready déjà. Il y avait déjà une game qui était faite sur mesure pour la Ligue nationale et c'est pour ça que tu as vu les Red Wings de Détroit le repêcher aussitôt. C'est un joueur qu'on entrevoit comme un travaillant de deuxième, troisième trio pour le futur. Il joue déjà sur le troisième trio avec Andrew Kopp et JT Comfort ce soir. Mais il faut aussi savoir qu'il y a d'autres jeunes qui s'en viennent pour Détroit. C'est Carter Bear qui a été repêché cette année et probablement l'ailier qu'ils ont repêché depuis Mason Raymond, qui a le plus de potentiel selon moi. Et il y a aussi Nate Danielson qui, lui, a été renvoyé à Grand Rapids dans la Ligue américaine, qui lui fut un choix de 9e au total, lui avant Axel Sandin-Pelika dans le même repêchage. Donc, juste pour vous dire, il y a de la relève, il y a eu beaucoup de choix de premier tour qui ont été utilisés. Et c'est de les voir arriver dans la Ligue nationale petit à petit. Le seul que je crois que plusieurs dans l'organisation de Détroit attend maintenant, c'est le gardien de vue Sébastien Cossa, qui lui est encore en train de développer dans la Ligue américaine.
Ouais, et pendant ce temps-là, on est allé chercher John Gibson pour être d'office devant le filet. Là. T'attends-tu à une progression pour les Red Wings cette année? T'sais, quand on embrasse finalement le virage jeunesse, là, vous avez entendu l'âge de tous ces jeunes joueurs-là que FX vous a donné. Il y a quelques vétérans, tout à fait normal d'avoir ça dans l'alignement, mais finalement, Steve Yzerman qui, on dirait, j'ai envie de dire, a compris le message, de faire jouer ces jeunes-là, puis de pas essayer de raccourcir cette reconstruction-là des Red Wings de Détroit. Donc, en épousant ce virage jeunesse, penses-tu qu'on va avoir une croissance cette année, qu'on va faire un petit peu de surplace ou qu'on va peut-être régresser au classement?
Selon Yzerman lui-même, je pense que la grosse différence, ça va être dans les buts. Ça va être s'ils sont capables de avoir un arrêt de temps en temps, comme il l'a dit l'année passée. Et je pense que ça démontre un peu l'instabilité de la position de gardien de but dans cette organisation-là depuis qu'il est là. Et c'est d'ailleurs pourquoi il a repêché un gars comme Sébastien Cossa aussitôt dans sa cuvée de repêchage aussi. C'est parce qu'on cherche vraiment un gardien numéro un capable de faire des arrêts et pousser cette équipe-là en série. Ce qu'ils n'ont pas eu depuis des lunes à Détroit. Donc, je pense que ça va grandement reposer sur un gars comme John Gibson, mais aussi la qualité et la stabilité de la défensive. Et c'est là où ce que vraiment Simon Edvinson, Axel Sandin-Pelika, Johansson que tu as mentionné tantôt aussi, c'est là où ce que ces joueurs-là vont être mis à l'épreuve et qu'on va pouvoir voir exactement qu'est-ce qu'ils ont comme brigade qui est défensive. Parce que si tu regardes cette brigade-là avec Ben Sherratt qui joue sur la première paire avec Moritz Seider et tu le juxtaposes, exemple, aux Canadiens de Montréal, mais je pense que la grande majorité vont prendre la brigade défensive actuelle du Canadien de Montréal au lieu de celle-ci de Détroit. Mais le potentiel qu'ils ont est très haute avec ces deux jeunes-là, Edvinson et Pelika, donc Sandin Pelika. Donc, on verra qu'est-ce que ça peut donner. Mais le problème là-dedans, c'est que ça fait longtemps qu'on attend de faire les séries à Détroit. Est-ce qu'ils vont encore être patients si ça va prendre une autre année avant que ces jeunes-là se forment pour vraiment pousser ce club-là en série? C'est là qu'il faut regarder, parce que même si Eiserman fut le capitaine de cette équipe-là, il commence à manquer de patience à Détroit.
Ouais, dernière participation des Red Wings en série en 2016. Hey. Et à ce moment-là, ça faisait 25 ans qu'on faisait les séries année Incroyable. Après année. Eiserman est arrivé en 2019 de son bord. Mais quand même, j'aime beaucoup la tendance des Red Wings un peu plus cette année, parce qu'au courant des dernières années, aller chercher des vétérans, les Tarasenko, les joueurs comme ça, les Jeff Petrie en défense, les Justin Hall... Je comprenais pas à 100% le plan de Steve Yzerman.
Mais là, de
plus en plus, on voit des jeunes émerger. On a échangé des joueurs aussi. La transaction Wallman, se débarrasser de Wallman, donner un choix de deuxième ronde aussi avec tout ça.
Ça, c'était pas fameux.
Non, c'était pas fameux du tout de la part de Steve Yzerman. Mais là, c'est sûr que les critiques commencent là, à Détroit, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les séries. Ben,
c'est difficile de critiquer une légende de la sorte. Là.
Ouais.
Tu sais aussi. Mais bon, voyons voir ce que ça va donner cette saison, Marco. Hey, pour l'instant, on a vu des gars qui seraient devenus agents libres, qui ont signé. Oui. Kyle Connor, 8 fois 12 millions. Jack Eichel, 8 fois 13 millions et demi de dollars. Il y en a beaucoup qui ont réagi à ces contrats-là hier en disant « Hey boy, que c'est de l'argent, c'est tellement cher. » Là, est-ce qu'il y en a d'autres là, qui devraient signer dans les prochaines semaines? Comment tu vois ça, où les prochains vont aller jusqu'au 1er juillet prochain pour devenir agents libres sans restriction?
Moi, il y a trois noms que je vais surveiller de près. Le premier, c'est Martin Nitschis à Colorado. Lui, dans l'année de contrat, il va devenir agent libre. On a su, quand il était en Caroline, qu'il n'était pas nécessairement prêt à signer à long terme parce qu'il voyait que le cap salarial allait monter et il ne voulait pas se donner à son apogée dans son prime à long terme. Il voulait voir où il s'en allait avec le cap salarial. Je pense que gagner ce pari-là, en se faisant échanger au Colorado, être capable de jouer avec McKinnon, maintenant, c'est à voir. Est-ce que le Colorado va se faire jouer le même tour deux années de suite? Parce que là qu'on voit les salaires qui montent, on commence à peut-être se dire peut-être qu'il aurait dû donner l'argent que Rantanen voulait l'année passée au lieu de maintenant devoir dealer avec Martin Nitschis, un gars qu'ils connaissent seulement depuis 3 ou 4 mois ensemble sur glace. Donc, si c'est là la difficulté, et on sait que Martin Nitschis est capable de retrouver un point par match comme cadence offensive, c'est certain qu'il va être capable de demander du 11-12 millions, et c'est là où ça va devenir cher pour le Colorado, parce qu'eux autres vont aussi devoir se préparer pour Cale Makar. Puis ça va coûter cher.
Ben oui. On en a parlé, toi et moi, l'hiver dernier du contrat de Cale Makar, et j'avais mis l'over-under à 18 millions. Ouais. Pas mal sûr que ça va coûter dans ces eaux-là.
Hey, mais pense ici 2 secondes, là. C'est une mauvaise gestion au Colorado, ce qu'on a fait la saison dernière.
Au début, on disait qu'il avait gagné la transaction. Absolument. Au début, dans les premiers jours, on se disait « OK, il a probablement gagné cette transaction-là parce que combien aurait signé Rantanen? » Finalement, quand
Rantanen... Tu vas payer des chasses plus cher que ça t'aurait peut-être coûté Rantanen parce qu'il vient de signer 8 ans, 12 millions.
Oh, qui va se faire critiquer. Oh, qui va se faire critiquer. C'est pas Joe Sakic, c'est Chris McFarland.
N'oublions pas que 12 millions à Dallas n'est pas 12 millions. Au Colorado.
C'est sûr.
Donc, ça leur a coûté un peu plus, mais même là, dans le contexte actuel, est-ce que tu veux un Rantanen à 12 millions ou un Martin Nitschis à 12 millions? Je pense que la réponse est assez facile pour tout le monde. L'autre joueur, puis lui, il a le gros bout du bâton, c'est Adrian Kempe avec les Kings de Los Angeles. Était le meilleur marqueur de cette équipe-là.
Lui,
même si ça joue dans un marché, lui, ça va coûter cher. On parle... L'ami Cam Robinson de Elite Prospects dit que sa représentation commence à pousser du 12 millions pour ses services, alors qu'on parlait de 10 millions il y a à peu près un mois. Et la raison pour laquelle, un, c'est certain que le contrat de Kaprizov va faire bouger la boussole, mais deux, là, on commence à voir toutes les autres qui commencent à signer aux alentours. Kyle Connor, je pense que c'est comprenable, marqueur de 40 buts, quasiment 100 points l'année passée.
Ouais.
Mais les arguments du côté du clan Kempe, c'est s'il jouait dans un club plus offensif, il aurait plus de points. Déjà qu'il est il était le meilleur marqueur de ce club-là l'année passée et frôle le point par match sur une base régulière. Donc, on dit vouloir pousser le 12 millions. On verra si ça va jouer en le 10 et le 12 et qu'il se trouve à quelque chose à 11 millions. Mais ça, c'est tout un casse-tête pour Ken Holland qui, lui, arrive avec les Kings de Los Angeles et doit dealer immédiatement avec le contrat qui risque d'être qui risque de frôler celui de Doughty qui, lui, gagne au-delà de 11 millions.
Ouais, et là, tu vas perdre à la fin de la saison ton capitaine Anje Kopitar. Si tu perds Kempe en plus, surtout pour rien, s'il devient agent libre, oh boy, ça va aller encore plus mal à Los Angeles.
Et l'autre affaire à prendre en considération, c'est que de plus en plus, les joueurs disponibles comme agent libre l'année prochaine, le nombre commence à vraiment descendre. Donc, ouais, ils ne vont pas être capables d'acheter le futur de cette équipe-là. Ils ne vont pas être capables d'utiliser les agents libres pour s'en départir un peu puis essayer de plugger le gros trou qui va laisser la perte de Anze Kopitar. Donc, c'est là la difficulté. Et la dernière équipe, vraiment, c'est Buffalo avec Alex Tuch, parce que lui commence aussi à pousser pour du 10 millions et plus dans son contexte. Puis il a amplement le droit de le faire vu la situation à Buffalo et le fait qu'il ne peut pas se permettre de perdre un joueur comme ça. Sinon, ça l'annoncerait quasiment un reset dans leur côté, parce que c'est un des joueurs le plus constant côté offensif du club et c'est un joueur qui est vraiment l'âme de cette équipe-là, alors qu'on manque de caractère. Donc, c'est ces trois joueurs-là à surveiller, selon moi. Et reste à voir comment Buffalo va commencer la saison, parce que je pense que leur performance pourrait impacter la vitesse à laquelle ce contrat-là va être signé.
Certainement. Merci beaucoup, Marco, de tes belles analyses. On se reparle sous peu, mon ami.
Gros plaisir. Bonne journée, tout le monde.